Alléluia. Bien, frères et sœurs, je vous invite à faire une première lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et puis j'ajouterai encore un verset, Matthieu 12, verset 33. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Amen. Eh bien, frères et sœurs, nous remercions le Seigneur d'appartenir au mouvement de l'Esprit. En effet, le mouvement de l'Esprit nous a apporté des révélations indispensables concernant le salut, concernant le Saint-Esprit. Et nous remercions le Seigneur pour cela, car par l'Esprit répandu, les dons de l'Esprit l'ont également été. Et c'est peut-être pour cela que beaucoup de chrétiens de nos assemblées, de nos églises, parlent plus souvent des dons que du fruit de l'Esprit. Les dons, frères et sœurs, sont merveilleux. Parler en langue, mais c'est extraordinaire. C'est un témoignage qui demeure. Et quand l'ennemi vient nous tenter, par exemple, pour que notre foi faiblisse, nous pouvons lui dire, oui, mais le don de l'Esprit, par exemple, le parler en langue, qui est merveilleux, eh bien, est un témoignage qui nous rassure pleinement. Cependant, frères et sœurs, les dons de l'Esprit ne sont pas une garantie du salut. Les dons de l'Esprit ne sont pas non plus un brevet de sainteté parfait. Il ne faut pas que nous nous trompions, mais au contraire, il nous faut nous appliquer à bien comprendre cela. Par exemple, on est venu vers le Seigneur, c'est Matthieu 7, 22, 23, et le Seigneur lui-même, dans son enseignement, nous dit, alors vous viendrez nous dire, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et puis, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et je leur dirai, je ne vous connais point, vous qui commettez l'iniquité. Comprenant cela, le don est une chose extérieure à nous, c'est quelque chose qui nous est donné. Tandis que le fruit est le résultat de la vie, de notre vie. Je prends un exemple, un arbre vivant portera du fruit. Le même arbre mort ne portera pas de fruit. La présence ou l'absence de fruit me dira si l'arbre est vivant ou si l'arbre est mort. Frères et sœurs, le Seigneur veut que nous soyons tous vivants. Que nous ayons la vie même en abondance. Que nous portions du fruit. Et même du fruit en abondance. Et c'est ce que nous ne devons pas négliger. Chaque arbre porte du fruit selon sa nature. Si nous sommes spirituels, nous porterons des fruits qui glorifient le Seigneur. Si nous sommes charnels, nous en porterons pour la chair qui conduit à la perdition. Le passage le moins sévère que nous trouvons à ce sujet dans Jacques chapitre 3, verset 12, Jacques nous dit « Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ?» Bien sûr que non. Si on est spirituel, nos paroles, nos actes seront spirituels. Si nous sommes demeurés charnels, eh bien, nos paroles, nos actes également seront charnels. D'ailleurs, dès la conversion, nous entendons l'impératif du Seigneur par la bouche de Jean-Baptiste, Matthieu 3, 8. Il criera « Produisez donc du fruit digne de la repentance » dit-il à tous ceux qui venaient, et même littéralement produisait du beau fruit. Les uns traduisent « bon », d'autres traduisent « beau », mais frères et sœurs, c'est le même mot qui signifie « beau » et « bon », et pourquoi pas mettre les deux ensemble, « beau » et « bon », voilà ce que nous devons produire. Et il y a également une menace, Matthieu 3, 8, 3, 10, tout arbre qui ne porte pas de beaux ou de bons fruits, qu'est-ce qu'on fera ? Sera coupé et jeté au feu. Voyez, le Seigneur ne parle pas là d'aucun don, mais du fruit, le résultat de notre vie intérieure qui s'extériorise. Et c'est à cela que nous devons aspirer de manière à être des chrétiens solides, des chrétiens assis, des chrétiens qui glorifient vraiment le Seigneur. Le figuier stérile qui ne portait point de fruits et demeurait sous le jugement du Seigneur. Et il en est de même lorsque nous ne portons pas de bons fruits. Le Seigneur Jésus va plus loin que Jacques. Il est plus sévère. Parce que nous ne comprenons pas très bien les réalités spirituelles, et il faut que le Seigneur emploie des images vraiment vigoureuses. Il nous parlera par exemple du chameau qui passe par le trou de l'aiguille, on n'a jamais vu ça, mais c'était pour nous faire comprendre la possibilité et l'impossibilité. Mais ce n'est pas là notre propos ce matin, mais je reviens dans Matthieu 7, 16, le Seigneur est donc plus sévère et il nous parle d'épines et de charbon. Il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines ? Ou des figues sur des chardons. En avez-vous vu déjà du raisin sur des épines et des figues sur des chardons? Quand il y a épines, chardons et ronces, on ne peut pas espérer cueillir ni raisin ni figues, c'est-à-dire ce qui est bon. Non, on ne peut pas espérer. Les épines, les chardons, les ronces sont des types du pécheur, du méchant. Nous trouvons dans 2 Samuel 23, 6 ceci. Les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette. Et le prophète Michée renchérit Et il dit, Michée 7:2, l'homme de bien a disparu du pays, il n'y a plus de juste parmi les hommes. Et au verset 4, il ajoute, le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Frères et sœurs, au temps du prophète Michée, c'était comme cela, mais le monde ne change pas, et dans notre temps, dans le temps présent, il en est de même aussi. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. À nos yeux, probablement pas. Il y a des gens gentils, il y en a d'autres qui le sont moins. Il y a des gens aimables et puis d'autres qui le sont moins, c'est vrai. Mais le Seigneur sonde, va plus loin et va plus profond et il voit que le meilleur est pire qu'un buisson d'épines. D'ailleurs, nous faisions partie, justement, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, nous en ayant retiré, il nous convient maintenant d'en passer par la nouvelle naissance, vivre la vie du Seigneur, afin que le Seigneur soit glorifié. D'ailleurs, l'apôtre Paul le disait aux Romains, en d'autres termes, Romains 6, 21, « Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. » Alors il pose la question, il dit, « Quel fruit portiez-vous alors ? Du fruit dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. » La question est posée encore une fois. Pensez un peu à la vie, à votre vie d'autrefois. Quel fruit portiez-vous alors? Frères et sœurs, quand même, quel changement, n'est-ce pas? Non, nous ne sommes pas parfaits, nous ne nous jetons pas des fleurs. Mais enfin, le Seigneur nous a bien changés, quand même. Quand on regarde en arrière, eh bien, nous rougissons, tandis que maintenant, nous avons une espérance. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quels étaient donc ces fruits d'autrefois? Eh bien, les fruits de la chair. Et vous connaissez ce passage affreux, je dirais, dans Galates 5, 19, à partir du verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Quel monde, quelle atmosphère! Vous aimeriez vivre dans une atmosphère pareille? Oh non, merci Seigneur de nous en avoir délivrés. Mais pensons qu'autour de nous, eh bien, ces choses existent encore. C'est pour cela qu'il faut que les enfants de Dieu apportent leur témoignage et sèment à tout vent, de manière à en arracher plusieurs, de faire passer de la mort à la vie et du jugement à la grâce. Que le Seigneur donc nous aide en tout cela. Au psaume premier, il est parlé de l'homme qui prend plaisir dans la loi de Dieu. Il est dit, psaume 1, versets 2 et 3, mais je retiens ce qui nous convient aujourd'hui. Il est d'abord dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Frères et sœurs, ce n'est pas, je dirais, une charge, ce n'est pas une obligation. Vos serviteurs même, pour vous faciliter la tâche, mettent à votre disposition donc un petit programme de manière que vous puissiez lire la parole du Seigneur méthodiquement. Ce n'est pas absolument nécessaire, indispensable. Mais vous savez, les enfants, on est bien obligé de les nourrir un petit peu à la petite cuillère d'abord. Et puis quand l'enfant grandit, il se nourrit tout seul, n'est-ce pas? Eh bien, ici, qui trouve son plaisir. Ne lisez pas la parole de Dieu par obligation, comme une charge qu'il faut faire, mais lisez par plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à lire la parole du Seigneur. Et je dis quelquefois, c'est mon but de lire la parole du Seigneur. En effet, un peu plus loin, donc, dans ce passage que je vous ai indiqué, le psalmiste dit, celui donc qui prend son plaisir à méditer la parole du Seigneur nuit et jour, comment est-il? Il est heureux d'abord, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Frères et sœurs, voyez, il y a des petits secrets qui sont si simples dans la parole du Seigneur, et cependant, c'est ce qui en fait la force. Il porte son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. D'ailleurs, tout ce qu'il fait, il le fait dans le plan de Dieu, sous le regard de Dieu. Il ne fera rien de malhonnête, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. Mais tout ce qu'il fait lui réussit, c'est agréable de voir que la réussite se trouve là, au terme des efforts. C'est vrai que le Seigneur a maudit le figuier qui ne portait pas de fruits, et l'évangile de Marc dit « parce que ce n'était pas la saison ». Mais le Seigneur quand même a dit que plus personne ne mange de ton fruit et le figuier a séché. Mais ce n'était pas la saison, ce n'était pas la faute du figuier, j'allais dire. Frères et sœurs, c'est vrai, mais pour nous, c'est toujours la saison. Tous les jours, c'est la saison de porter du fruit à la gloire du Seigneur et à le satisfaire pleinement. Il n'y a pas de saison morte et puis de pleine saison, non. Tous les jours, nous avons la possibilité de le faire. Et comme l'eau est nécessaire, nous avons vu un arbre planté près d'un courant d'eau, l'entretien de la vie est spirituel, est également indispensable, et cela a lieu par la parole du Seigneur. Méditer nuit et jour, ça veut dire constamment. N'exagérez pas, quand même. N'allez pas veiller toute la nuit et tous les jours comme ça, vous ne tiendrez pas le coup, n'est-ce pas? Mais ça veut dire pas de temps en temps quand on se rappelle, mais souvent, aussi souvent que cela est possible, quand on aime quelque chose, on ne pense qu'à ça, eh bien, aimez la parole de Dieu et lisez la parole de Dieu de cette manière-là. Voici littéralement ce que disent les versets 17 et 18 du chapitre 7 de Matthieu. D'abord, si vous le voulez, nous allons relire ce passage. Matthieu 7, 17, 18. Tout bon arbre, c'est ce que nous avons donc dans nos Bibles, porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Eh bien, littéralement, il est dit, tout bon arbre fait de bons fruits. Non seulement porte, mais je préfère quand même, c'est peut-être pas très élégant, mais enfin fait de beaux ou de bons fruits. Mais l'arbre mauvais, l'original dit, l'arbre pourri, ou bien moisi, c'est le dictionnaire qui donne ses définitions de ce mot qui est employé dans l'original, mais l'arbre pourri fait, on m'apporte, fait, c'est sa faute, fait de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre pourri porter de beaux fruits. C'est sévère, n'est-ce pas, de voir ce que la parole dit. L'original nous donne du piquant. Il nous en faut pour nous réveiller un peu, pour nous faire comprendre la chose. Car dans ce passage, il n'est pas question d'arbres d'essence différentes, pas du tout. Il est question de l'état de l'arbre, la santé de l'arbre. On pourrait dire, tout arbre sain et saïen fait de beaux fruits, mais l'arbre pourri fait de mauvais fruits. Frères et sœurs, c'est de notre état spirituel que dépend le fruit que nous produirons. Un arbre sain, et ça y est, ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre pourri porter de beaux fruits. L'état de l'arbre, sa santé, se reflète dans les fruits. Et les fruits reflètent, je dirais, à leur tour, la santé de l'arbre. Saint, l'arbre saint, et ça y est, les fruits sont beaux, l'arbre pourri, moisi, les fruits sont mauvais. Voilà ce que la parole nous enseigne. C'est donc votre état ou santé spirituelle qui reflétera sur vos actes, vos paroles, vos comportements. Si l'intérieur est sain, vos paroles seront saines. Si l'intérieur est pourri, vos paroles, n'en parlons pas, seront de même. Même si vous vous efforciez de produire du fruit, vous ne pourriez porter de beaux fruits, mais ce serait au contraire de mauvais fruits. Comment, avec un intérieur pourri, peut-on porter de beaux fruits ? Le beau fruit de l'esprit, et ce fruit de l'esprit, Galates 5, vous connaissez aussi, c'est la suite de ce que nous avons lu, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. On aime vivre dans une atmosphère pareille, d'amour, de douceur, de patience et tout le reste. C'est notre vie intérieure qui produira cela. Et si chacun d'entre nous possédait le fruit de l'esprit au maximum, oh, ce serait magnifique. Et votre serviteur n'aurait plus rien à vous dire parce que ce serait parfait, n'est-ce pas? Mais Paul dit, je vous répète toujours les mêmes choses parce que cela vous est salutaire, eh bien c'est pourquoi aussi on est obligé de le faire. Comment un arbre pourrit-il? Eh bien, en se laissant envahir par toutes sortes de moisissures imperceptibles mais actives, entraînant en définitive de la pourriture, là, entraînant l'arbre de la pourriture à la mort. Aussi, frères et sœurs, attention à ces petites moisissures invisibles. Ne vous laissez pas envahir, ne laissez pas envahir votre vie par les moisissures du péché. Vous me direz, oh non, amen, qu'il en soit ainsi. Soyez fidèles dans les moindres choses. N'autorisez aucune convoitise s'emparant de vous. Luttez contre les péchés mignons. Luttez contre les pensées mauvaises, impures. Renoncez aux mauvaises lectures, aux mauvais journaux. Sanctifiez vos yeux, vos regards, Sanctifiez vos oreilles. Luttez contre vos penchants. Préservez votre cœur. Avant toute chose, c'est du cœur que viennent toutes mauvaises choses, mais aussi les meilleures. Quand le cœur est sanctifié, alors faites bien attention pour que vous soyez chrétiens solides et que le Seigneur se glorifie. Sincèrement, je dirais, maintenez votre vie sainte et spirituelle en méditant la parole, en priant, en chantant des cantiques et demeurez zélé pour le Seigneur. Et je dirais encore, sincèrement, faites souvent votre examen de conscience. Il n'y a pas de confessionnal. Je ne crois pas qu'il n'y en aura jamais. Mais faites souvent votre examen de conscience devant le Seigneur pour éliminer les moisissures, justement. Le Seigneur dit, ou dites, c'était au chapitre 12 de Matthieu, c'était le verset 33, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Eh bien, littéralement, il y a où faites l'arbre beau et son fruit est beau, ou faites l'arbre pourri et son fruit est pourri. Il n'est pas dit, dites. Enfin, évidemment, notre langue exige quand même, n'est-ce pas, qu'on dise ainsi. Mais enfin, l'original, vous savez, m'enchante, je dirais, par ces anomalies, parce que ça nous fait mieux comprendre. Non pas dites, mais faites. Alors, nous sommes donc invités à faire. Nous sommes donc capables de faire, sinon le Seigneur ne dirait pas faites. Nous sommes donc responsables, puisque le Seigneur dit faites, et si nous ne le faisons pas, nous devenons donc des gens désobéissants. Donc, faites. Nous devons, pour cela même, veiller et faire, parce que nous pouvons faire. Toutefois, le Seigneur respecte notre liberté en disant, vous faites l'arbre bon, et ou bien faites l'arbre pourri. Que désirez-vous faire, justement, devant cette alternative, faire bon ou bien pourri. Cela revient à dire, en quelque sorte, que celui qui est saint, qu'est-ce qu'il doit faire? Se sanctifie encore. Il ne va pas chercher à droite et à gauche, c'est lui-même qui va se sanctifier. Mais que celui qui est souillé et qui veut demeurer dans sa souillure, malgré les appels du Seigneur, eh bien qu'il se souille lui-même, n'est-ce pas, est-il dit? Et c'est vraiment lamentable, une parole qui semble forte, mais pas bien comprise souvent, et ça veut dire que celui qui ne veut pas persévère dans sa méchante voie. Mais sachons, une fois de plus, que tout arbre qui ne porte pas de beaux fruits sera coupé et jeté au feu. Nous ne sommes plus des ronces, nous ne sommes plus des épines, mais ne soyons pas, ne devenons pas des arbres fruitiers pourris, car notre sort serait le même. Il nous faut donc porter du fruit, plus de fruits, et de beaux et de bons fruits à la gloire du Seigneur. Quant au don, ne vous faites pas de soucis. Le Seigneur saura vous combler, vous couvrir, vous aspirer, bien sûr. Mais commencez par le fruit de l'esprit, à vous inquiéter de manière que le reste vous soit pleinement donné. Et enfin, je termine en vous laissant un verset, un dernier verset. Proverbe 11, 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. le fruit du juste est un arbre de vie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la vie? Rien d'autre, n'est-ce pas, que la vie, bien sûr, la vie éternelle. Encore une fois, Proverbe 11:30, le fruit du juste est un arbre de vie. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, nous avons besoin de ton secours pour devenir meilleurs jour après jour. Mais nous savons que tu ne nous prives pas de ton secours, mais au contraire, tu nous viens sans cesse en aide. Et c'est pourquoi nous constatons aujourd'hui que non seulement tu nous as sauvés, mais aussi tu nous as gardés. Ce que nous te demandons, c'est de faire que nous croissions jour après jour pour la plus grande gloire de ton nom. Amen.